18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 13 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Vous avez toujours rêvé de partir à l'étranger et le mot Erasmus vous donne des envies de voyage? Restez à l'antenne car sur les 3 jours qui arrivent, nous parlerons d'Erasmus en lien avec l'UBO. Et ce soir, on parlera plus particulièrement des dispositifs d'accueil pour les étudiants étrangers. Mais tout de suite, on se plonge dans le spectacle hybride Chrysalide qui aura lieu le 26 octobre à 20h30 à l'espace Léo Ferré. Et pour ça, on accueille 3 membres de la compagnie Kamen, donc Roman Roncet, qui est auteur et metteur en scène. Bonjour.
Bonjour.
Léa Viplier, qui est chorégraphe. Bonjour.
Bonjour.
Et Roman Rosser, qui est créatrice et ingénieur son. Bonjour.
Bonjour.
Alors, juste avant de commencer, je vous informe, vous qui nous écoutez, que si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez appeler la radio au 02 98 03 82 61 pour tenter de gagner 2 places le lundi. Mais revenons à nos invités. Roman Roncet, comment vous est venue l'idée de ce spectacle?
Alors, c'est un spectacle qui a un peu mijoté pendant pas mal de temps. Donc, moi, je suis musicienne de base. Et j'ai vraiment beaucoup composé pendant une période un peu compliquée pour moi. Et quand je suis revenue sur Brest, je faisais mes études sur Paris, j'avais découvert beaucoup de spectacles pluridisciplinaires et j'avais plus du tout envie de continuer de la musique toute seule. Je voulais vraiment la partager, et la partager pas forcément qu'avec des musiciens, mais avec plein d'artistes qui venaient de différents univers. Donc il y a vraiment eu cette volonté de créer et un spectacle pluridisciplinaire et un spectacle également qui parlait du thème de l'adolescence, parce que c'était vraiment le thème de toutes les chansons que j'avais pu composer pendant cette période-là. Donc c'est un spectacle qui est venu de lui-même, donc qui est assez autobiographique et qui ensuite s'est inspiré de l'autobiographie de chacun des collaborateurs du spectacle. Et voilà, Chrysalide est née de cette envie-là de faire à plusieurs et puis sur le thème de l'adolescence.
Et justement, en parlant de différentes personnes de la troupe, comment vous avez choisi les membres de cette compagnie et du coup les membres qui participent au spectacle?
Ça s'est fait naturellement et puis un petit peu au hasard. Alors, ça a commencé avec Johan. Donc Johan, c'est le compositeur. Nous, on se connaît parce qu'on a fait le tremplin jeune en scène. Donc on a commencé à travailler ensemble en août et le spectacle a commencé à prendre forme et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit là il faut qu'on trouve les artistes. En fait, je savais que je voulais des danseurs, je savais que je voulais travailler beaucoup la technique, enfin j'adore tout ce qui est très visuel. Donc pour ce qui est de la danse, je vais peut-être laisser parler Léa de notre rencontre.
Oui, avec Roman on est dans le même master et très vite en fait elle m'a parlé de son projet Chrysalide, donc concert hybride pluridisciplinaire. Et j'ai été emballée très rapidement par cette idée. Du coup, elle cherchait des danseurs, en fait, qui allaient aussi chorégraphier le spectacle. Donc, ça qui me plaît beaucoup, parce que je suis danseuse dans une compagnie et au conservatoire de danse également. Et vraiment, le côté création, c'est ça qui me plaisait. Surtout que, à côté de ça, c'était clair dès le début que c'était à moi de chorégraphier. Elle n'avait pas vraiment d'idée sur ce qu'elle désirait. Pour le visuel du spectacle, enfin il y avait ce côté carte blanche, on se fait confiance, tu t'inspires de moi, je m'inspire de toi, et qui m'a énormément plu. Donc très rapidement j'ai accepté et je me suis chargée du coup de trouver un autre danseur parce qu'elle voulait un couple, donc un homme et une femme. Et j'ai contacté un ami à moi qui est dans la compagnie Moral Soul, donc de contemporain, et qui est aussi un breaker, donc qui fait du hip-hop.
Donc,
Angelo. Oui, pardon. Donc voilà, je lui en ai parlé. Il a été très très motivé aussi rapidement. Ça, c'est aussi un concept nouveau. On n'a pas l'habitude de danser en ayant carte blanche comme ça et de créer vraiment toutes les chorégraphies. Donc il a été emballé rapidement. Il a rencontré Roman et tout est allé très vite après.
Et du coup, toi, l'autre Roman.
Ouais, moi, en fait, il me semble que Roman a contacté CLIP, donc l'association des étudiants de l'ISB, donc Images et Sons. Et donc, moi, je suis étudiante en Images et Sons. Et donc, j'ai eu l'annonce et tout de suite, je suis jetée dessus. Ça m'intéresse. Moi, j'ai fait beaucoup, surtout du son pour la musique. Et j'aimais beaucoup le design sonore, la création sonore. Et travailler dans une compagnie, c'était vraiment un truc qui m'attirait. Donc,
je me suis lancée et j'ai été la première, donc ça a pu marcher.
Et du coup, vous venez...
Donc, Roman est venu avec Simon également, qui est du coup le créateur lumière du spectacle. Et on a deux petits nouveaux qui sont arrivés en cours de route. On a Olivier Rouet qui s'est occupé de toute la vidéo du spectacle, qui est donc vidéaste et photographe. Et on a également Yuna qui est arrivée pour une histoire un petit peu particulière que peut-être Léa expliquera mieux que moi. Mais...
Oui, à la base, du coup, je chorégraphiais et dansais le spectacle. Sauf qu'en juin, je me suis blessée. Je me suis fait très mal le genou, je vais devoir me faire opérer. Donc, on a décidé de maintenir le spectacle et je me suis chargée du coup de trouver une danseuse remplaçante. Donc, Yuna Benour, avec qui j'avais déjà dansé. Et du coup, c'est vraiment la première personne à qui j'ai pensé au début. Donc voilà, là, on est dans... Enfin là, du coup, j'ai vraiment que la casquette chorégraphe pour le coup. Et un peu enseignante. Enfin, les trainings, tout ça, voilà.
Et de ce que j'ai compris, vous veniez tous et toutes du Finistère. C'est important pour vous de constituer un spectacle avec des artistes locaux ?
Alors, moi, je ne viens pas d'ici du tout. c'est pas grave. Moi, je viens de Marseille et je suis venue ici pour les études. Donc, mais ça me plaît. Hein.
L'idée du local n'était pas... disons qu'on est une compagnie qui voulons... on voudrait vraiment... tourner plutôt dans le département et dans la région, c'est vraiment notre volonté pour le moment. Après, effectivement, on vient pas d'ici de base, mais on est tous étudiants de là. Donc, en fait, c'est d'ici qu'on a nos contacts, les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. Donc, pour nous, c'est normal. C'est vraiment notre première étape, c'est de de remercier de notre manière en vraiment essayant de nous diffuser dans le département dans un premier temps et dans la région.
Et je pense que une idée qui nous rassemble pas mal, c'est qu'on est donc tous des jeunes étudiants et passionnés. Par notre art, même si on ne fait pas les mêmes études en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a réunis, c'est la passion et l'envie de créer ensemble, quoi.
Et donc du coup, Romane, tout à l'heure, tu disais que tu as vraiment découvert ce système de spectacle hybride à Paris. Est-ce que vous n'avez pas peur, et de manière générale toutes les trois, qu'avec toutes ces disciplines différentes, tous ces arts qui soient présents sur scène, ça puisse perdre le spectateur ?
Si, moi j'avais un peu cette inquiétude au début, j'avais peur que ça parte un peu dans tous les sens, mais une fois qu'on s'est tous retrouvés, on a retravaillé des choses, après de toute façon on a pu faire deux résidences, donc on a vraiment eu du temps pour créer, et ça s'est bien imbriqué, et y a des choses, il y avait des idées qu'on avait qu'on a enlevées parce qu'on partait trop loin, et non, maintenant, je trouve que vraiment, ça fait un tout, le spectacle, et c'est ça que je trouve super.
Bah, disons que c'était un pari risqué. Et puis même, humainement, on est des personnes qui viennent de milieux très, très différents. Et puis, d'ailleurs, c'est notre force. On a donc des duos de musiciens, duos de danseurs. Et même les esthétiques sont très différentes. Donc, globalement, c'était un mélange où c'est vrai que quand je me suis retrouvée avec tous les musiciens, je me suis dit, bon, bah, ça passe ou ça casse. Et j'avoue que ça passe plutôt bien, enfin, même... Au-delà de l'artistique, et ça, on laissera les spectateurs en juger, mais vraiment, humainement, ça marche vraiment très bien. Il y a quelque chose... Bon, on est devenu une petite famille, c'est un peu niais de le dire, mais c'est vrai quand même. et c'est vrai que ça, on est beaucoup dans l'écoute. Enfin, j'ai pas dû... Enfin, du coup, je suis metteur en scène, mais j'ai pas voulu prendre la casquette un peu de chef qui dirige. J'ai vraiment amené mes textes, et chaque duo d'artistes avait vraiment carte blanche sur sa libre interprétation. Il y a des titres qui vont parler d'une certaine manière, que Angelo, par exemple, va adapter d'une autre manière. Donc il y avait vraiment, chacun avait carte blanche, et malgré tout, tout le monde s'écoute en fait. Il y a vraiment une écoute particulière sur chacune des disciplines, même si on a le dernier mot sur notre discipline à nous en fait. Donc il y a voilà cette organisation qui s'est faite, et c'est assez fluide en fait, ça se passe bien. On a beaucoup de chance, enfin, moi je suis vraiment contente de l'équipe qu'on a formée. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien.
Oui, chacun peut donner son avis sur tous les autres domaines, et ça c'est super, et on s'écoute tous, et... Ça fait vraiment avancer les choses.
Une question assez simple, mais pourquoi votre spectacle s'appelle Chrysalide ?
Alors, Chrysalide, en fait, c'est l'entre-deux, c'est quand la chenille devient papillon. Et comme je disais tout à l'heure, on traite de l'adolescence, et notamment de l'adolescence en tant que femme. Donc en fait, Chrysalide, c'est l'adolescence d'une petite fille chenille qui devient femme papillon. Et donc, c'est tout ce qu'on peut traverser pendant cette époque-là. C'est très large, en fait. Ça va des beaux moments comme des moments plus durs. Et ça traite certains sujets, d'ailleurs, dont on entend beaucoup parler, malheureusement. Mais voilà, donc c'était vraiment cette volonté. Et d'ailleurs, le spectacle est en deux parties, parce qu'on va partir un peu dans le scientifique, mais la chrysalide, elle se fait en deux parties. C'est d'abord la nymphose, c'est la chenille qui devient chrysalide, et ensuite émergence, la chrysalide qui devient papillon. Voilà.
Et du coup, voilà, tu disais que c'était sur l'histoire d'une adolescente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire précisément de ce spectacle ?
Alors, il y a une histoire sans histoire dans le sens où il n'y a pas une véritable narration. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est parti des textes existants. On n'a pas créé pour le spectacle. C'est un spectacle qui s'est créé autour des textes et c'est un petit peu l'originalité du spectacle. Mais c'est aussi ce qui en fait son authenticité parce que du coup, c'est très autobiographique. C'est des choses que j'ai vraiment vécues. Donc, en fait, on ment pas. On est vraiment sur quelque chose de très authentique. Après, chacun a son vécu, chacun a sa manière d'avoir vécu l'adolescence. En tout cas, moi, je l'ai vécu de cette manière. Et les personnes qui interprètent, que ce soit la danse, que ce soit dans la technique, ont aussi vécu d'une certaine manière qu'ils essaient de mettre en scène. Voilà.
Oui, un peu tous se retrouver dans ces textes, certains plus que d'autres. Du coup, on a un peu tous nos préférences de morceaux, de textes. Et ce que je trouve intéressant, du coup, je rebondis là-dessus, c'est que moi, j'ai senti aussi un peu la maturité aussi dans l'écriture des textes et dans l'écriture, la composition de la musique des morceaux au piano. Et du coup, ça marche bien aussi avec ça.
Et je voulais rajouter que Romane a une manière d'écrire très métaphorique. Donc en fait, elle, derrière une image, elle va penser à quelque chose. Que moi, quand je vais lire les textes ou écouter les chansons, je vais les interpréter par rapport à mon vécu ou je vais avoir une autre image mentale en fait. Du coup, je pense sincèrement que ça peut parler à beaucoup de personnes.
Du coup, c'est un spectacle qui est donc sur l'adolescence, le passage de l'adolescence à l'âge adulte d'une jeune femme. Et donc, vous parlez de féminité, aussi un peu de sexualité. C'était important pour vous d'en parler, sachant qu'on est dans un monde où tout ce qui touche à la féminité, à la sexualité de la femme, c'est encore un petit peu tabou.
Bah, encore une fois, ça s'est fait naturellement. J'avais pas la volonté de faire un spectacle particulièrement engagé. Il se trouve que les textes le sont devenus, mais le sont devenus malgré moi, je sais pas. Enfin, disons que c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Du coup, forcément, c'est des sujets qui me tiennent véritablement à cœur. Je me suis pas levée le matin en me disant je vais faire un spectacle engagé. Ça s'est fait naturellement, et je pense que du coup, c'est pas aussi parce que c'est vraiment des choses qu'on a vécues que ça donne son sens en fait à la création.
Mais on n'a pas voulu tomber dans le cliché ou le mélodrame ou quoi, parce que forcément, moi, du coup, j'ai dû chorégraphier avec les textes. Romane m'a donné les textes, m'a dit voilà, ta carte blanche, inspire-toi des paroles et crée quoi. Et en fait, on n'a pas voulu tomber dans le cliché ou le mélodrame. Enfin, c'est toujours très très sensible, très libre cours à l'interprétation des gens aussi. Mais ouais, c'est quand même important de parler de ces sujets-là, mais je pense pas que le spectacle se veuille politique ou polémique.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché et qui a fait que ce soit Romane comme Léa, vous aviez envie de participer à ce spectacle ?
Oui, moi, bien sûr, les textes m'ont énormément plu, les morceaux aussi. Enfin, dans tous les cas, je pense qu'Angelo et moi, on aurait eu du mal à créer un spectacle d'une heure sur des sujets qui ne nous parlaient absolument pas ou qui ne nous plaisaient pas. Donc oui, les sujets nous ont plu énormément, nous ont inspirés. Et voilà.
Oui, moi, j'ai pas choisi de rentrer dans ce projet par rapport au thème du tout. C'était plus vraiment le fait, l'art pluridisciplinaire, surtout ouais. Ça, plus que le thème des textes. Mais c'est vrai que ça m'a tout de suite touchée. Ah, super, j'ai pu faire ça.
Il y a plusieurs choses qui nous ont attirés dans ce projet, en fait.
Et du coup, dernière question sur le côté un petit peu politique de tout ça. Est-ce que c'est un spectacle dans l'ère de MeToo, comme je l'appelle, c'est-à-dire où, à travers la sexualité, parce que vous en parliez quand même un petit peu, de la jeune fille qui devient femme, il y a aussi certaines choses qui sont représentées, comme les abus, le harcèlement de rue, l'absence de consentement, etc. Et qu'en tant que femme, quand on devient une femme, c'est quelque chose qu'on peut vivre.
Alors, la première partie du spectacle est assez sombre. Et effectivement, elle parle en partie de ça. Je pense surtout à une chanson qui s'appelle Allumeuse et qui parle du coup d'harcèlement sexuel d'une petite fille et de l'impact que ça a pu avoir sur son développement. Donc, ça suit en fait les chansons qui suivent. Ce morceau-là montre en fait les conséquences psychologiques que ça peut avoir. Donc, encore une fois, ça pas été voulu, ça a été vécu. Donc en fait, je pouvais pas ne pas en parler. Ça s'est fait pareil de manière naturelle. Et puis on a vraiment essayé de travailler techniquement pour faire ressentir aux spectateurs quelque chose de très fort. Enfin, en fait, Roman utilise la quadriphonie, qui est une utilisation technique qui permet de faire tourner le son. Et en fait, elle s'occupe de toutes les les transitions entre chaque morceau. Et il se trouve que voilà, Allumeuse, c'est une petite fille qui se traite elle-même d'allumeuse, parce qu'en fait on lui a tellement mis en tête que c'était elle le problème, bah qu'elle le pense vraiment. Et en fait voilà, je sais qu'à ce moment-là par exemple il y a beaucoup d'insultes, pute, chienne, qui tournent en rond et qui sont vraiment accentuées grâce à Roman, qui fait tourner ce son-là un peu partout, où vraiment on veut que le spectateur se sente physiquement oppressé à ce moment-là pour un peu ressentir ce qu'on peut ressentir quand on se fait insulter dans la rue.
Ouais, je trouvais que c'était un bon choix du coup d'utiliser la quadriphonie pour ça, pour vraiment mettre le spectateur au centre en fait du son, et il est à la place de cette petite fille qui se fait insulter tout autour, et on se sent dans sa tête, et ouais, c'est vrai que ça, pour le coup, ça marche bien.
Accentué du coup par la danseuse qui ressent les impacts directs physiquement, quoi. Ouais,
et justement, pour faire la transition, on va parler de danse. En tant que chorégraphe, Léa, on réussit tout simplement à faire transparaître les passages de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à travers des mouvements de danse, à travers une certaine gestuelle?
C'est pas simple comme question. Comme je vous l'ai dit, on s'est vraiment inspiré des musiques et des paroles. Donc en fait, déjà dans l'évolution du spectacle et des chansons, ça transparaît. Et du coup, avec Angelo, on a juste eu à traduire les paroles de Roman en mouvement. Donc y a ça qui est important. En plus de ça, lui vient, enfin, danse du contemporain, du break. Moi, c'est plus du jazz ou du contemporain aussi. Donc on a des styles différents, donc selon la thématique, l'envie ou la sensation qu'on avait quand on entendait la musique, chacun de nous pouvait apporter de sa discipline pour le mettre dans une choré en fait. Donc le vocabulaire gestuel était vraiment très très grand et très très riche, ce qui nous a permis de créer énormément de chorégraphies différentes, qui ne se ressemblent pas toutes, et de réussir à transparaître en fait des émotions différentes. Et je pense que c'est vraiment, en fait, on a voulu traduire les paroles par notre corps, et on s'est laissé complètement aller avec notre sensibilité, sans en fait vouloir caler des trucs techniques ou non. En fait, c'est pas ça du tout qui nous intéressait. C'était vraiment la sensation qu'on avait quand on écoutait le morceau, comment on le traduit par notre corps en fait.
Je trouve que c'est bien traduit du coup dans le théâtre d'ombre. Et on voit vraiment cette évolution. Je trouve que avoir juste l'ombre comme ça, la silhouette, je trouve que ça marche encore mieux.
Oui, parce que c'est vrai qu'au-delà de la thématique, on s'intéresse aussi beaucoup à la technique et à. Enfin, c'est un spectacle qui se veut vraiment très visuel. On s'intéresse beaucoup à jouer avec les lumières, avec la profondeur et tout ça. On utilise notamment un théâtre d'ombre, et ce qui nous permet justement de jouer sur les proportions, de faire un énorme Angelo qui effraie Léa toute petite en jouant là-dessus. Et puis je rebondis sur ce que tu disais, Léa, c'est vrai que une des forces qu'on a voulu mettre en avant sur ce spectacle, c'est le fait qu'on soit tous dans des esthétiques différentes. C'était aussi montrer que voilà, il y avait plein d'esthétiques différentes, et que c'est pas parce que moi par exemple je fais de la chanson et puis Joanne de l'électro, Léa et Angelo c'est breakdance et jazz, et c'est pas parce qu'on fait des choses différentes qu'on peut pas travailler ensemble. Et c'était la richesse, c'était prendre la richesse, les forces et les inspirations de chacun, les mélanger, faire en sorte que ça marche, et on espère que ça marchera.
Oui, ça marche.
Et du coup, donc, pendant votre spectacle, tous les sens sont mis au travail, même l'odorat, de ce que j'ai compris. Pourquoi ce choix de solliciter tous les sens?
Eh bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre qui sont entendues, mais nous on a bien aussi le sous-entendu. Il y a des choses qu'on peut vraiment ressentir sans s'en rendre compte. Donc effectivement, il y avait l'odorat. Alors moi, je sais que je suis passionnée par tout ce qui est cinq sens, et je voudrais encore plus le développer dans les autres créations. C'est vraiment l'olfactif, on a essayé de le faire, il n'est pas aussi développé qu'on aurait aimé. pour des raisons plus techniques. Mais par exemple, Johan fait la bass music, donc qui est un genre électro qui s'intéresse vraiment beaucoup aux basses, en fait. Et selon les fréquences qu'il a mises, c'est des fréquences qui, par exemple, sur l'album qui sortira, ne sont pas audibles parce qu'il faut vraiment des bonnes enceintes pour ça. Mais en fait, c'est des choses qu'on ne va pas entendre mais qu'on va ressentir, qui vont plutôt aller travailler sur nos poumons, sur certains organes. Et on essaie vraiment de jouer là-dessus, en fait, qu'au-delà d'un ressenti mental, psychique, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps qu'on ne puisse pas expliquer. Et je trouve que c'est ça qui est magique, en fait, que parfois on se met à avoir la chair de poule et on ne sait pas du tout pourquoi. Et ça fait... On y tenait beaucoup à ça.
Et ouais, avec les cinq sens comme ça, c'est vraiment... plonger le public dans un univers entièrement, en fait. C'est pas juste avec Louis ou le visuel, c'est vraiment on veut partager un moment de vie avec le public. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que la stimulation des cinq sens pour pouvoir y parvenir.
Bon, du coup, on est sur quatre sens parce qu'on n'a pas le toucher, mais on y travaille.
Merci à toutes les trois.
Merci.
C'était donc Romane Rosser, Léa Viplier et Romane Roncet, venues pour nous parler de leur spectacle hybride Chrysalide qui aura lieu le 26 octobre à 20h30 à l'espace Léo Ferré et dont vous pouvez gagner des places, deux places en appelant la radio au 02 98 03 82 61. Et on écoute tout de suite Consommons de Loïc Desplanques.
Des forfaits SMS, des cures de vitamines A, B, C, D, E, S, des revues, des magazines. Des carottes et des pommes, censément biologiques. Un nouveau téléphone, bien plus ergonomique. Des frites et des nuggets, des habits, des abats. Du foie gras pour les fêtes, des caddies, des cabas. Des manteaux pour les chiens et des psys pour les chats. Des machines, des machins, etc. Consomme, PDG,
consomme.
Épicier,
consomme.
Menuisier,
consomme. Consomme.
Alpiniste,
consomme.
Alchimiste,
consomme.
À la rue,
consomme. Consomme.
Comédien,
consomme.
Bon à rien,
consomme.
Chirurgien,
consomme.
Car surtout n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois. Des chicots sur pivot, des implants, des liftings, puis des cures de repos, des séances d'aquagym, des compléments minceurs, des crèmes pour les ridules, des antidépresseurs, des patchs et des pilules, des voitures d'occasion, de l'eau qui fait aller, une piscine, une maison et l'air conditionné, des chaussures à la mode, à vos marques, c'est les soldes, du poisson tant qu'il y en a, etc.
Consomme,
boulanger,
consomme,
financier,
consomme,
saisonnier,
consomme, consomme,
pharmacien,
consomme,
maître chien,
consomme,
normalien,
consomme, consomme,
éboueur,
consomme,
sénateur,
consomme,
gladiateur,
consomme.
Car surtout n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
Consomme.
Allons-y. Des bougies, des joujoux
en plastique,
des peintures, des vernis, des couverts
en plastique,
des bagnoles, des babioles, des guiboles
en plastique,
des bols, des paraboles et des cols
en plastique,
des shampoings anti-poux, des sirops 3 en 1, anti-stress, anti-tout et antibactérien, des goodies, des guidons, des gadgets inutiles, des bidets, des bidons et des bidules débiles. Et attendez, ce n'est pas fini. Des saveurs de l'année, des jambons de pays, des labels qualité, de HT1 gratuit, des formats familiaux, des cuisines en aglo, des gâteaux sans gluten, sans gras, sans parabènes, des lingettes jetables qui nettoient sans frotter, des PC, des portables, des frigos connectés, des petits pots du Kenya, des champignons chinois, des kiwis d'Alaska, etc.
Consomme,
garagiste,
consomme,
utopiste,
consomme,
aubergiste,
consomme, consomme,
magicien,
consomme,
galérien,
consomme,
collégien,
consomme, consomme,
chansonnier,
consomme,
cantonnier,
consomme,
chevalier,
consomme.
Car surtout, n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
Consomme,
sans revenu,
consomme,
sans diplôme,
consomme,
sans emploi,
consomme, consomme,
profite. professeur,
consomme.
Amateur,
consomme.
Empereur,
consomme.
Président,
consomme.
Sous-lieutenant,
consomme.
Tire au flanc,
consomme.
Car surtout, n'oublions pas, nos emplettes sont nos emplois.
Vous êtes sur Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était Consommons de Loïc Desplanques. Vous vous êtes toujours demandé comment se passait l'arrivée des Erasmus étrangers à Brest, comment ils parvenaient à s'intégrer. Nous invitons à vous répondre à ces questions en nous présentant certains dispositifs mis en place pour faciliter l'arrivée des étudiants étrangers à l'UBO. Avec nous ce soir, Ronan de Brassier, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Ronan qui est le créateur de l'association ESN, mais également David Diao, bonsoir.
Bonsoir.
Donc David qui est là parce qu'il veut entre autres intégrer l'ESN. Et enfin Gwenaël Goya, bonsoir.
Bonsoir.
Qui est là pour présenter le dispositif de parrainage mis en place, ainsi qu'une future application. Ronan, qu'est-ce que l'ESN ?
Donc l'ESN c'est Erasmus Student Network en fait, mais contrairement à son nom, ça s'adresse à tous les étudiants internationaux qui viennent dans une ville. Et donc l'association n'existe pas encore, en fait on est en cours de création. Et pour l'instant, donc on a une équipe d'une 10-15 de personnes à peu près qui travaillent sur le projet à travers différents groupes de travail. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus. Donc on va peut-être définir les objectifs. Donc on a différents objectifs pour l'association. Donc c'est vraiment pour l'accueil, l'intégration des étudiants internationaux, tout ce qui va être l'aide administrative. Je pense notamment aux étudiants internationaux donc, qui viennent d'autres continents, même qui doivent s'adapter à la culture française. Donc on peut les aider à ouvrir un compte en banque, faire un dossier CAF, tout ce genre de choses. Donc de l'intégration à travers donc, la rencontre entre étudiants internationaux, mais aussi avec les étudiants français. Faire découvrir la région de Brest et la région Bretagne, et même pourquoi pas faire des voyages en fait, faire découvrir la culture bretonne et française. Et un autre pan de l'association, c'est de promouvoir aussi la mobilité auprès des jeunes français, en fait, dans les écoles, dans les universités, en faisant des interventions pour promouvoir l'Europe et le monde. Voilà.
Donc, Ronan, vous avez passé un semestre en Slovaquie. C'est au retour de celui-ci que vous avez décidé de créer une asso ESN. Est-ce que c'est parce qu'il y en avait une là-bas et que ça vous a marqué, ou alors il n'y en avait pas là-bas et vous avez estimé que vous auriez aimé qu'il y en ait une?
En fait, c'est exactement ça. En fait, je suis allé là-bas donc pendant un an, et il y en avait une qui nous ont permis de vraiment bien nous inclure dans le pays et de nous faire visiter et de nous faire apprendre la culture slovaque, pas la langue parce que c'est pas évident. Et en fait, en revenant, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait pour les étudiants internationaux sur Brest. Et donc, comme je reprenais mes études et que ça me prenait quand même pas mal de temps, j'ai un peu abandonné le truc parce que, comme j'ai vu, il y a la FEDEB qui organise l'accueil quand même des étudiants internationaux, mais sur le suivi tout au long de l'année, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce que ça demande quand même énormément de moyens. Il y a aussi l'université qui met un système de parrainage, mais ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc, ça manquait en fait de structures qui puissent faire le lien entre tous les différents partenaires qui s'occupent déjà dans la ville de Brest de faire des choses pour les étudiants internationaux, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça manque de structures voilà, qui permettent de faire le lien entre toutes celles-ci. Et là, l'idée, c'était de créer donc quelque chose pour rassembler ça. Et donc, je ne suis pas vraiment créateur de l'association, mais on a un groupe qui travaille sur l'élaboration voilà, de cette association.
Et du coup, dans votre groupe, ça vous paraissait vraiment nécessaire de créer cette association?
Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable besoin sur Brest, parce qu'il y a énormément d'étudiants internationaux qui y arrivent. Et l'année dernière, donc pour ma part, moi, j'étais parrain donc dans le système, dans ce qu'organise la fac pour le système de parrainage. Et avec ma filleule, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas du tout la seule dans ce cas, et qu'il y avait un véritable besoin. Ça, je pense que David pourra en parler tout à l'heure peut-être, mais qu'il y avait un véritable besoin pour les étudiants internationaux. Parce que il y a deux types d'étudiants internationaux. Pour moi, il y a les étudiants Erasmus, donc qui viennent dans le cadre d'un échange, qui viennent pour un temps donné, qui reviendront ensuite étudier dans leur pays. Ils ont des aides de la part de l'Europe, donc c'est plus facile, même pour joindre les deux bouts, pour la plupart. Et c'est pas le même besoin qu'ils ont. Alors que les étudiants internationaux, ça c'est David qui pourra peut-être plus en parler, mais en tout cas, ils ont peut-être un petit peu plus de pression que les étudiants Erasmus. Ils ont envie de réussir en France pour ensuite retourner dans leur pays après avoir développé ces connaissances-là. Et donc c'est aussi important d'avoir ce genre d'étudiants avec nous dans l'équipe pour en parler.
David, peut-être que tu veux en parler maintenant.
Oui, oui. Comme le disait Ronan, en fait, les étudiants internationaux qui sont hors Erasmus ont des problématiques, ont des... Comment je peux dire ça? Ils font face à d'autres, à des soucis qui sont un peu plus différents que ceux qu'on a l'habitude de voir par rapport aux étudiants Erasmus. La question du financement des études, de l'hébergement, la culture qui change. Pour moi qui viens d'un pays qui est à 6000 km de la France, ça change, le climat, les habitudes. J'avais jamais ouvert de compte bancaire quand j'étais dans mon pays. Et quand j'arrive et qu'on me dit t'as besoin d'une carte bancaire, d'un relevé d'identité bancaire pour t'inscrire, je me dis je commence par quoi? Et quand on arrive et qu'on n'a pas, on a personne, on n'a pas de parents et on n'a pas de parents et qu'on vient étudier comme ça, on est beaucoup perdu. On est perdu. Et moi, j'ai constaté que l'école Lubéo propose le système de parrainage, mais des étudiants africains n'y sont pas. Des étudiants qui ont un certain nombre d'années d'expérience ici ne s'impliquent pas. Et je me suis dit, pourquoi ne pas porter ma pierre à l'édifice? Pourquoi ne pas aider? Puisque je comprends ce phénomène-là qui est se retrouver un peu, je peux dire, de griffe tout seul dans un pays dans lequel on ne maîtrise pas tout. C'est vrai j'ai déjà fait des études universitaires dans mon pays d'origine, mais quand on arrive encore, les maquettes pédagogiques, les filières et tout sont plutôt différentes. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui nécessite en fait d'être bien encadré pour y faire face. Et donc, là, aujourd'hui, avec Ronan, comme il le disait, et on a la possibilité de créer une association qui va répondre à ces besoins-là, accueillir les étudiants Erasmus et hors Erasmus, les étudiants internationaux, pas seulement pour les recevoir et leur permettre de commencer les cours, mais le suivi à long terme et comprendre réellement ce qu'ils ont besoin, ce dont nous avons besoin, parce que je suis étudiant international aussi. Et déjà, c'est le premier point, c'est tout ce qui est administratif. Après, il y a l'intégration, connaître la culture, découvrir, partager, ne pas s'isoler, parce qu'il y a beaucoup de risques d'isolement, de précarité aussi, quand on arrive et qu'on ne connaît personne. Voilà, c'est un peu ça.
Et du coup, de quel pays tu venais? Et est-ce que tu sais si dans ton pays, tu dis que tu as fait des études là-bas, il y avait un système qui pouvait être un peu similaire ou pas du tout?
Je viens de la Côte d'Ivoire, voilà. Mais non, chez nous, il n'y en a pas. On n'a pas ce système-là où des ressortissants ou des étudiants de la sous-région puissent se déplacer, faire une mobilité. Non, ça n'existe pas chez nous et je trouve ça dommage. Quand on est étudiant ivoirien, on vient directement étudier en France, aux États-Unis, au Canada, mais c'est rare d'étudier dans la sous-région ouest-africaine. On se dit, pourquoi ne pas financer ces études pour aller apprendre là où on a beaucoup plus d'espoir. Et aujourd'hui, moi, avec l'expérience que je suis en train d'acquérir, avec tout ce que je vois, je me dis, ce serait bien après de mettre ce que j'aurais appris, de mettre mes compétences au service de mon pays. J'imagine déjà, à mon retour dans mon pays, en train de faire des partenariats avec Ronan et d'autres étudiants qui viendront prendre la relève, en fait. Voilà.
Et du coup, Ronan, comment toi et le groupe avec lequel tu as créé l'association, justement, vous y êtes pris pour construire l'association?
Alors, au départ, on avait donc une équipe de départ de 5, 6, 7 personnes, je ne sais plus exactement. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Et donc, le souci, c'est qu'on a tous des obligations, que ce soit associatives ou universitaires, qui font qu'on ne pourra pas, de toute façon, s'investir à 100% dans le projet. Donc, pour ça, on avait besoin d'étudiants, en fait, qui puissent s'engager pour les étudiants internationaux. Et donc, on a commencé donc une campagne un peu de recrutement en début d'année. On est notamment intervenu à la réunion des parrains-marraines. Et c'est là, finalement, qu'on a eu presque toutes les personnes intéressées aujourd'hui. Et là, on est en train de définir donc, des différents groupes de travail qui puisse, enfin, un groupe de travail va travailler sur l'écriture des statuts, l'autre va travailler sur le besoin des étudiants et ensuite quels événements on pourra mettre en place pour répondre à ces besoins-là. Un autre groupe travaille sur d'autres besoins des étudiants dans ce qui est le côté social. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour permettre de répondre à ces problématiques-là. Un autre pour tout le côté communication et représentation, c'est-à-dire représenter les étudiants internationaux, donc auprès, par exemple au niveau de la métropole, de la mairie, etc. Et un groupe qui est sur tout ce qui est défense des droits des étudiants internationaux. Donc pour l'instant, donc c'est le tout début. D'ailleurs, on recrute toujours. S'il y a besoin, je peux me permettre de donner l'adresse peut-être. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé à participer à ce projet, vous pouvez envoyer un mail. Donc c'est sur brest.esn@gmail.com, tout en minuscule. Et donc voilà, vous pourrez envoyer un mail. Ensuite, on vous redirigera vers le groupe Facebook et si vous êtes motivé par le projet.
Est-ce que du coup, vous êtes avec l'association, vous êtes en contact avec les Erasmus qui vont arriver? Enfin, là, on est en train de être un peu compliqué avec le Covid, mais est-ce que le but à l'avenir, c'est d'être en contact avec les Erasmus ou étudiants étrangers hors Erasmus qui arrivent avant même leur arrivée?
Oui, bien sûr. En fait, le but à long terme, c'est d'être vraiment le point relais étudiant pour ces étudiants internationaux-là et leur permettre ensuite de faire un lien avec tout ce qui existe déjà à Brest pour les étudiants internationaux et de les rediriger vers ce qui existe déjà. Et pour ce qui n'existe pas, nous mettre en place des choses qui pourraient les aider. Et voilà. Et sinon, moi je crois que c'est tout.
Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que l'association peut faire vraiment de manière très très simple, des exemples concrets quoi.
Si on prend par exemple un étudiant international qui vient, on va prendre un exemple de Côte d'Ivoire. Donc l'idée à terme, ce serait de pouvoir travailler avec la DUI et la DEV pour les contacter en amont, se présenter en amont par mail. Ensuite, quand ils viennent sur place, ce serait aller le chercher à l'aéroport, par exemple, avec des bénévoles qui ne seraient pas forcément partie de l'association, mais qui seraient uniquement ponctuellement là pour aller chercher les étudiants. Puis ensuite, les amener à leur logement, leur fournir un parrain ou une marraine aussi en coopération avec ce qui existe déjà à l'université. Donc pour l'instant, on n'a pas commencé encore les démarches, mais voir comment on pourra travailler avec eux. Mais c'est le but, c'est l'idée qu'on en a. Donc ils aient tous un parrain ou une marraine pour qu'ils puissent les aider dans leurs démarches administratives et les intégrer aussi, pourquoi pas, à leur classe, à leur groupe de promo. Ensuite, dans tout ce versant intégration, donc c'est pourquoi pas de créer une journée d'intégration, un week-end d'intégration, ou pourquoi pas même une semaine d'intégration à la découverte de Brest, comme ça se faisait là où j'étais, en Slovaquie. Organiser le week-end des sorties, par exemple pour aller visiter le Conquet, la Pointe Saint-Mathieu, tout ça, le château de Brest, Océanopolis, pourquoi pas. Faire des partenariats aussi avec tous les partenaires culturels aussi, par exemple avoir des réductions spéciales pour les étudiants internationaux dans certains musées ou peut-être des tarifs préférentiels pour le bus, par exemple. Et puis être là en cas de, enfin être vraiment le premier interlocuteur pour ces étudiants internationaux, étudiants en tout cas, pour ensuite rediriger vers tout le reste.
Et David, quel rôle t'as envie d'avoir et d'apporter dans l'association?
D'abord, je vois dans cette association un outil qui va permettre d'aider des personnes qui arrivent et qui se sentent seules, qui ont des risques de s'isoler. Et là, moi, je suis dans l'optique d'expliquer ce que je ressens, ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé, de partager l'expérience que j'ai eue, mais aussi d'interpeller d'autres étudiants internationaux qui sont là et qui ne s'intéressent pas aux autres et qui se disent « bon, je suis là, j'ai réussi, j'arrive à étudier, donc ça se passe bien ». Non, je suis là un peu pour dire « non, il faut s'intéresser aux autres ». Quand on arrive, on étudie, mais aussi il faut apprendre de l'autre, apprendre la culture de l'autre, proposer aussi ce qu'on a comme culture. Parce que je me rappelle avec Ronan, la première fois qu'on a dîné ensemble, je lui ai fait goûter un plat de Côte d'Ivoire. Et c'était très intéressant.
Et très bon.
Voilà, donc... dans cette optique-là, en fait, de partager les expériences, de partager les cultures, de dire, écoutez, on peut faire des ateliers, en fait. Faut dire, vous êtes arrivé, voici comment ça se passe, parce qu'il y a des étudiants qui arrivent, qui tout est un peu nouveau, donc il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Est-ce qu'on ne peut pas les rediriger vers des personnes ressources? Par exemple, tu arrives pour faire des études de droit ou de sociologie, et tu as un parrain qui fait d'autres études en fac de sciences, il ne pourra pas forcément t'aider dans la filière que tu fais. Et moi, je me dis, avec l'ESN, on peut faire encore, en dehors du parrainage, on peut faire des tutorats. Et moi, c'est ce volet-là que je vois, le volet tutorat, le volet culturel, et aussi et surtout pour les démarches administratives qui sont parfois très longues, voilà. Donc je compte apporter ce que j'ai reçu, voilà.
Et avant de continuer, on écoute Dawn de Fontana Rosa. Vous êtes sur le 101.1 FM dans la quotidienne d'Info Locale. C'est vous qui le dites et on est toujours avec Conwell Goya, Renan Debrassier et David Yao pour parler des dispositifs d'accueil pour les étudiants étrangers qui arrivent ici. Gwenaëlle, vous êtes donc en charge du système de parrainage de la direction des études de la vie étudiante. Pourquoi avoir décidé d'instaurer un système de parrainage?
En fait, il y a environ 2000 étudiants internationaux à l'UBO. Et donc tous les ans, il y a des primo-arrivants. Et là, David et Ronan ont super bien expliqué qu'en fait, il y a un besoin très important à différents points de vue, tant en termes d'accueil vraiment pratique à l'arrivée que d'intégration, de soutien dans les premières démarches administratives. Et donc, c'est depuis l'année dernière que l'UBO, donc la Direction des études et de la vie étudiante, met en place un système de parrainage. Et la confirmation du besoin a eu lieu cette année, puisqu'en fait... le nombre de parrains et de filleuls a doublé depuis l'année dernière. C'est-à-dire que cette année, ça concerne 500 personnes. Donc il y a 250 filleuls, donc 250 parrains en face. Donc ça concerne environ 500 personnes. Donc ça, voilà, on voit bien qu'il y a un besoin et c'est super qu'il y ait des initiatives étudiantes pour compléter et aussi travailler plus du point de vue voilà, de l'approche étudiante sur l'accueil des étudiants parce qu'il y a un besoin très important.
Et du coup, comment sont élaborés les couples parrains, marraines et filleuls?
Et ben c'est en fonction de la composante, puisqu'il y a souvent aussi des questions comme ce que dit David tout à l'heure, des questions aussi de tutorat qui peuvent se mettre en place. L'idée vraiment c'est de faciliter le contact. Donc voilà, c'est pour l'instant c'est un système assez simple de d'enregistrement par tableau Excel. Donc d'où l'application sur laquelle je vais pouvoir m'étendre un peu plus tard. Mais donc voilà, c'est vraiment sur des critères essentiellement de composantes.
Et du coup, est-ce qu'il faut forcément avoir fait... Alors, soi-même, c'est un Erasmus ou alors être parti à l'étranger pour devenir parrain à l'UBO?
Pas du tout, non. C'est vraiment ouvert à tous les étudiants qui sont... Voilà, qui sont intéressés par, par la, l'altérité, par l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre, tous ceux qui veulent s'investir et aussi faire découvrir leur ville. Donc c'est ouvert à tout le monde.
Et justement, du coup, qui peut être parrain ou marraine et comment on fait?
Et bien alors, pour devenir parrain ou marraine, et, c'est important de poser la question parce qu'il y a encore des besoins actuellement, parce qu'en fait, à cause de la situation du Covid, il y a pas mal de demandes de visa et surtout d'acceptation de visa qui ont pris de retard. Donc il y a encore actuellement des étudiants internationaux qui arrivent. Qui vont arriver. Donc il y a encore pas mal de besoins, notamment en sciences et en médecine. Donc si vous êtes étudiant en sciences ou en médecine, il ne faut pas hésiter à contacter Elodie Autrette à la direction des études et de la vie étudiante. Donc c'est elodie.autrette@unif-brest.fr. Voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez accueillir un étudiant international et le soutenir dans ses premières démarches à l'UBO et à Brest.
Et donc, du coup, ce que vous disiez, c'est que le nombre de parrainages a doublé. Est-ce que vous avez des retours sur ce système de parrainage et les personnes qui ont participé?
Bon, je pense que David est le mieux placé pour en parler, puisque lui-même en a bénéficié.
Oui. Je dirais que c'était une très belle expérience. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je stressais parce que je me disais, à mon arrivée, qui me reçoit, comment ça va se passer pour l'inscription. Et... là, j'arrive. Déjà avant mon arrivée, j'ai reçu un mail de l'UBO qui me dit on vous attribue un parrain, vous avez sollicité un parrain, on vous attribue un parrain, et donc à votre arrivée, vous pouvez le contacter et tout. Et donc, quand j'arrive d'Abidjan, j'envoie un mail à mon parrain qui aujourd'hui il a fait un stage en Espagne pendant le confinement et tout. Donc, on ne s'est pas beaucoup vu, mais déjà à mon arrivée, il a été très sympathique parce que il m'a expliqué déjà qu'est-ce qu'était la DEV et qu'il fallait aller voir la DEV, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir l'emploi du temps. Parce que chez moi, l'emploi du temps, il se collait sur un tableau par semaine. Et là, j'arrive, il faut se connecter au compte INT, ce qui est un peu nouveau. Il faut passer par Internet et tout pour avoir accès à l'emploi du temps. Et mon parrain, il m'a dit, écoute, si tu n'arrives pas à le faire, t'hésites pas, tu m'appelles à tout moment. Et ça a été vraiment le coup de grâce, en fait, parce que il était là, il m'a expliqué ce qu'il faut faire. Et moi, ce que j'ai trouvé un peu difficile, c'est le fait que quand on arrive, on n'a pas le temps de tout faire. Parce qu'il faut... Le parrain, il est là, il est là à t'aider dans tes démarches, mais il ne peut pas te remplacer dans tes démarches. Et donc, il faut que tu te rendes à la CMI pour valider le titre de séjour. Il faut se rendre à la DEV. Il faut entamer les démarches pour la demande de sécurité sociale pour les étudiants étrangers. Et ça, tout ça en même temps. Et tout se mêle parce que aussi il faut ouvrir un compte pour payer les frais d'inscription. Et ça, c'est pas facile de le faire. Mais quand on a quelqu'un qui est bienveillant et qui a la volonté de le faire, on se sent moins seul et on arrive à le faire. Et cette expérience a été tellement riche que je me suis dit, à peine un an que je suis là, je me suis dit, il faut passer le relais. Il ne faut pas rester là à bénéficier, non. Il faut passer le relais. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours les autres qui tendent la main, qui vous tendent la main ou qui vous donnent à chaque fois, mais il faut donner aussi. Et cette année, j'ai postulé pour être parrain. Déjà, je ne me suis pas limité à cela. Je suis allé sur le terrain pour la journée d'intégration et d'accueil des étudiants internationaux. Et ça, c'était une riche expérience, très riche. Quand moi, qui suis un peu timide de nature, qui ne vais pas vers les autres, je me dis, vas-y, salue-les et demande-les qu'est-ce que tu peux faire pour les aider. Et à la fin de cette journée, j'étais épuisé, mais très content. Parce que j'ai échangé avec pas mal de personnes. J'ai vu des personnes qui se sont dit, peut-être lui, ça fait des années qu'il se retrouve à l'UBO. Et donc, il connaît tout. Et non, pourtant, je ne connaissais pas tout. Et là, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui on a partagé de belles idées, de beaux moments. Parce qu'on avait la volonté de transmettre. Transmettre le peu qu'on a reçu. On ne peut pas tout connaître, surtout quand on veut faire du parrainage ou quand on veut aider de nouvelles personnes qui arrivent à la fac. On ne peut pas tout connaître, mais on peut dire, écoute, tu as besoin de ça, donc je te dirige vers telle personne. Et c'est pourquoi on se rend compte aussi que la demande est forte. Il y a déjà des associations, des structures qui sont déjà là, mais la demande est forte, donc on a encore besoin de l'ESN. J'espère qu'on va beaucoup travailler pour y arriver. Déjà, l'équipe est toute motivée à cela. On a toujours besoin de personnes, de bras valides, en fait, pour aider et pour accueillir. Et là, cette année, ça se passe bien. Pour l'instant, on a, dans ma classe, par exemple, on a une demi-douzaine d'étudiants qui viennent d'arriver. Et quand on voit, ils sont un peu perdus. Et quand je dis perdus, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Quand on en plein cours et le professeur, il demande, est-ce que vous avez vu le test que j'ai mis sur Moodle? Et l'étudiant qui vient d'arriver ne sait pas Moodle c'est quoi et c'est un peu difficile. Et donc moi, ça me pousse à aller toujours de l'avant, à chercher à aider. Et à dire, écoutez, quand vous n'arrivez pas à comprendre, solliciter de l'aide. C'est vrai, on ne peut pas avoir beaucoup de parrains, mais on peut faire des ateliers aussi, échanger avec les personnes, connaître leurs problèmes, et ce serait très bien. Ce serait très bien qu'on ait toujours un canal de discussion pour connaître les besoins des autres, et même entre étudiants français, je crois, parce qu'il y a des étudiants qui viennent du sud de la France, qui arrivent et ils découvrent pas mal de choses, surtout le climat, le beau climat de Brest. Voilà.
Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours en lien avec ton parrain ?
Oui. On s'appelle de temps en temps. Et là, on a prévu prendre une bière ensemble. Mais bon, il a un jet pour le moment. Il a un jet, ouais.
Gwenaëlle, vous avez aussi un rôle dans le processus de création d'une application pour faciliter les échanges entre étudiants et administration des différentes universités partenaires. Comment est venue l'idée de faire une application ?
Alors, en fait, depuis octobre 2019, l'UBO fait partie d'une université européenne. Qui s'appelle CIU, parce qu'en fait les universités qui sont concernées donc, sont situées donc, à Brest, donc l'UBO, à Cadiz, à Kiel, à Gdansk en Pologne, à Kiel c'est en Allemagne, pardon, Gdansk en Pologne, Split en Croatie et Malte à Malte, donc qui sont toutes des universités avec une identité maritime assez forte. Et donc en fait le but de cette université européenne, c'est en gros à échelon de 10 ans, c'est de construire un campus européen, donc un étudiant qui rentrerait en L1 à l'UBO ou qui arriverait de Côte d'Ivoire, qui rentrerait à l'UBO, il rentrerait dans un espace de formation européen où toutes les mobilités seraient facilitées, que ce soit études ou stages. C'est aussi valable pour les personnels. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, et surtout avec la situation du Covid, en fait, où c'est un réseau qui est tout nouveau, qui est en train de se construire, qu'en fait, il y a un réel besoin d'interconnaissance. Et donc, de là est venue l'idée, en fait, de créer une application pour, on va dire, favoriser le contact, la mise en relation et l'interconnaissance entre les étudiants de ces six universités. Sachant que, du coup, n'importe quel étudiant international qui rentre à l'UBO est bien sûr considéré comme un étudiant de l'UBO et donc est intégré de fait dans cette application. Et donc, cette application pourra aussi servir pour le système de mise en relation par un filleul. Il y aura différentes fonctionnalités. En fait, le but, c'est vraiment de à la fois favoriser l'interconnaissance en ligne. Donc, par exemple, juste pour le plaisir de pouvoir discuter, j'en sais rien, de foot avec un étudiant polonais, par exemple. Mais aussi, il y aura toute une dimension sur les collaborations universitaires, que ce soit, par exemple, pour l'apprentissage de la langue. Si, par exemple, on part en Erasmus en Croatie, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec un étudiant croate en amont, par exemple, pour organiser un accueil ou alors pour juste commencer à essayer de voir si on peut discuter un peu en croate pour préparer son arrivée, parce que tout le monde n'apprend pas le croate sur son temps libre, comme ça, sans raison particulière. Donc ça peut être un bon moyen. Et aussi, il y aura toute une dimension sur, justement, et là, on refait le lien avec le sujet qui nous réunit ce soir, c'est sur comment est-ce qu'on peut favoriser aussi la création d'une communauté universitaire, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on arrive en Erasmus, ça peut être un bon moyen aussi de mettre déjà en relation, par exemple, un étudiant polonais qui a un grand salon avec un clic-clac ou un canapé, et bah, il pourrait proposer son canapé à un étudiant de l'UBO qui arrive et qui cherche juste 2-3 jours pour dépanner en attendant de trouver une coloc ou un appart. Idem dans l'autre sens, bien sûr. Et aussi, justement, quelqu'un qui arriverait, un étudiant allemand qui arrive à l'UBO, qui recherche un parrain, et un étudiant de l'UBO qui veut bien être un parrain. Donc voilà, ça pourrait, ça va être un système de matching en fait. Hein. C'est une application de mise en relation assez classique qui se veut assez ludique. Parce que bah, justement, voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir une application un peu ergonomique et chouette à regarder qu'un tableau Excel. Mais vraiment, l'objectif est le même, c'est de mettre en relation des étudiants qui veulent se rencontrer, qui veulent échanger, qui veulent discuter, qui veulent découvrir l'autre. Et c'est aussi valable pour les enseignants, les personnels de l'UBO. Mais voilà, c'est moins ce qui nous occupe aujourd'hui.
Et du coup, qu'est-ce qui va changer concrètement dans la vie des étudiants avec cette application ?
Et ben, tous ceux qui ont un smartphone pourront la télécharger gratuitement. Et donc voilà, ça se veut aussi avoir un côté un peu ludique, c'est-à-dire qu'on pourra renseigner un profil avec en fonction de bah là, sa composante, ce qu'on étudie, son master, son domaine de prédilection, les langues qu'on parle, qu'on voudrait bien parler, ses hobbies, etc. Et le but, c'est vraiment de se mettre en relation sur des choses assez concrètes comme ça, quoi.
Du coup, il n'y aura pas forcément besoin de partir à l'étranger, d'être soi-même parti à l'étranger pour utiliser l'application ?
Pas du tout, mais en fait, justement, c'est aussi un des... C'est une très bonne question. C'est un des objectifs aussi, c'est de se dire qu'en fait, tout le monde ne part pas à l'étranger, tout le monde ne part pas en Erasmus. Donc nous, notre travail, et celui de l'ESN bientôt aussi, c'est de faire en sorte de montrer que c'est vraiment une expérience qui est enrichissante à tout point de vue, tant du point de vue universitaire, professionnel pour la suite, mais aussi personnel, bien sûr. Mais on sait très bien que tout le monde ne part pas en Erasmus pour différentes raisons. Et que à la fois accueillir un étudiant international sur le campus, qu'il soit Europe, enfin un étudiant Erasmus européen ou un étudiant international plus voilà de qui vient d'ailleurs, c'est une super ouverture aussi à l'international. Ça contribue aussi à l'interculturalité à l'université. Et voilà, se dire que via cette application, pouvoir avoir aussi un petit accès à cette université européenne, et ben ça contribue aussi au fait que les étudiants de l'UBO aient une ouverture à l'international.
Gwenaël, Goya, Ronan de Brassier et David Yao, merci à tous les trois. Ils étaient là pour parler de l'accueil des étudiants étrangers à l'UBO, avec à la fois l'association ESN. Et donc, si vous voulez y participer, vous pouvez envoyer un mail à brest.esn@gmail.com. On a aussi parlé du système de parrainage, où là encore, si vous voulez participer, vous pouvez envoyer un mail à elodie.autret, donc AUTRET@univ-brest.fr. Et enfin, on a aussi parlé de l'application See You. Mais les Erasmus Days, ce n'est que le début. Et on se retrouve demain à la même heure pour parler cette fois du bilinguisme et d'Erasmus. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre de personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Le centre de santé communautaire du Blône s'est lancé autour de 5 personnes. Aujourd'hui, l'équipe s'étoffe.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Bonjour.
Bonjour,
vous avez changé
de café.
Ah oui, excusez-nous, eh bien, un petit peu saqué.
Je suis désolée, vous avez coupé en
train... Bah non, c'est bien, c'est la vie, quoi, tu vois. Mais il n'y en a plus beaucoup de café, désolée. Du coup, il faudrait une newsletter, je pense, mail et papier pour les habitants.
À la genèse du projet, ça a démarré à 5 ?
Ça a démarré à 1 fois 5. Enfin, en fait, ça a démarré dans la tête de plein de personnes qui se sont retrouvées, enfin, qui se sont par affinité regroupées autour du projet. Charlotte Levacon, médecin, Elinor Lapadue-Argue, médecin, Anna Gonzalo, médecin, Claire Terra, médecin, moi-même qui travaillais dans une collectivité territoriale. On avait tous envie de travailler, de créer une structure pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle autour de la santé et autour de la santé communautaire. Mes collègues se sont rencontrés, soit dans le cadre universitaire, soit lors de concertations qui ont pu être organisées par la ville de Rennes autour de la santé et autour de la santé au Blône. Et est née donc l'idée de créer ce centre de santé communautaire, de se monter en association. Et ensuite, les dés étaient lancés et on a déroulé le projet jusqu'à l'ouverture, on l'espère, en mars 2021.
Depuis combien de temps vous travaillez dessus ?
Ça fait 2 ans que le projet il est en travail, en réflexion. Il y a eu une accélération avec mon arrivée en janvier en tant que salarié à temps plein. Donc là, ça fera 2 ans. On a été rejoint Bah, pendant le confinement, en mars et avril, par un infirmier, une sage-femme et une orthophoniste pour étoffer les réflexions.
Moi, je suis Charlotte Levacon, je suis médecin.